Radio Kapi. Oh, Kapi. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à ce journal dont voici les titres. Dans quelques minutes seulement commence aux États-Unis la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Un accord qui interdit aux deux pays de ne plus jamais se faire la guerre entre eux. On en parle depuis plusieurs mois déjà, mais rien ne semble s'améliorer. L'approvisionnement en médicaments est difficile dans la province du Nord Kivu depuis notamment la fermeture de l'aéroport de Goma. Et à ce jour, 19 aires de santé de la zone de santé de Pinga sont actuellement en rupture de stock de médicaments. La prise en charge des malades est un vrai calvaire, sans oublier les milliers de déplacés. Malheureusement, il y a des humanitaires qui commettent des violences et abus profitant de leur statut. À Goma, au Nord Kivu, une formation a été organisée cette semaine par l'ONG Wokovu Way afin de sensibiliser contre ce dérapage. Le responsable de cette organisation est notre invité dans un instant. Bienvenue à ce journal. Dans quelques minutes seulement commence aux États-Unis la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Un accord qui interdit aux deux pays de se faire la guerre, comme l'explique ici Alain Irung, notre envoyé spécial sur place aux États-Unis.
Le texte de l'accord comprend quelques dispositions principales. C'est par exemple le respect de l'intégrité territoriale de la RDC par le désengagement des forces, c'est-à-dire la levée des mesures défensives du Rwanda. Quant au respect de l'intégrité territoriale du Rwanda, cela passe par la neutralisation des FDLR par la RDC. D'autres dispositions concernent la cessation des hostilités. Ici, les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties acceptent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Il y a aussi le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques, l'intégration conditionnelle de ces groupes et la création d'un cadre de coopération économique régionale entre Kinshasa et Kigali. L'accord prévoit en outre la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, incluant le concept des opérations CONOPS, un cadre d'échange de renseignements négociés à Luanda en octobre 2024. Depuis Washington DC, Alain Rungmouchinge, Radio Kapi.
Rappelons dans ce journal que hier, c'était aussi la signature, il y a 107 ans, de l'armistice, autrement dit signature du document de cessation de la guerre mondiale. Et à l'occasion de cet événement, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, a salué la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi aux États-Unis pour entériner l'accord de paix de Washington. Eliezer Ntambwe a aussi saisi cette opportunité pour signaler que le gouvernement congolais place les réformes sur la prise en charge des anciens combattants parmi ses priorités. Un récit de Blaise Ndongala.
En présence de nombreux invités, dont l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, le ministre délégué à la Défense nationale a souligné les rôles majeurs des soldats congolais lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, Eliezer Ntambwe a jugé nécessaire que la RDC restaure la dignité des anciens combattants, assure leur reconnaissance nationale et leur prise en charge. Dans ce sens, ses membres du gouvernement souminois a insisté sur son projet de loi portant statut des anciens combattants qui, selon lui, ont porté l'espoir de tout un pays dans les moments les plus sombres. Ce ministre délégué a en outre réaffirmé le soutien du peuple congolais ainsi que de l'ensemble du corps militaire au chef de l'État pour sa détermination à sauvegarder l'intégrité territoriale. Il a également salué la présence du président Félix Tshisekedi au pays de l'Oncle Sam pour l'entérinement de l'accord de paix de Washington.
Sachez encore que 17 000 personnes, dont de nombreux ex-combattants, vont bénéficier d'une assistance à travers les activités génératrices de revenus grâce au projet Star-Est, stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, à Beni précisément. Le lancement de ces activités a eu lieu aujourd'hui même et Jean-Baptiste Kamba, le chef des programmes des réseaux des médias pour le développement REMED, organisation choisie pour l'exécution de ce projet, nous explique ici le contenu de ce programme. Il est au micro de Marc Marot.
Ce projet s'inscrit dans la deuxième composante de la mission de stabilisation de la RDC qui consiste à la dotation des AGR. Concrètement, nous sommes au niveau de lancement. Ce lancement sera suivi par des consultations communautaires et ces consultations communautaires, il y aura une enquête qui va nous permettre d'identifier les organisations à base communautaire. Les bénéficiaires, comme vous avez suivi avec moi, 17 000 bénéficiaires, mais qui sont répartis à catégories. Les 30% de ces bénéficiaires qui sont des ex-combattants et d'autres parties sont destinées à des populations vulnérables et des groupes à besoins spécifiques. Ça peut être des victimes des violences basées sur les genres, ça peut être des peuples autochtones appelés communément pygmées et d'autres. Et donc, nous demandons à cette population de savoir que l'AGR n'est pas l'argent qu'il faudra utiliser pour les fêtes, pour manger. C'est l'argent qu'il faut fructifier, donc il faut travailler avec l'argent pour avoir des bénéfices à long terme.
Province du Nord Kivu encore, 19 aires de santé de la zone de santé de Pinga sont actuellement en rupture de stock de médicaments. Cette situation est due à l'instabilité sécuritaire et à l'enclavement de la zone qui bloque tous les axes d'approvisionnement, a indiqué le médecin chef de zone. Ce dernier précise que ces contraintes empêchent les partenaires d'appui d'accéder à la zone depuis plusieurs mois, compliquant ainsi la prise en charge des malades, notamment des milliers de personnes déplacées. Bernadine Diambou.
Les postes de santé de Kalinga, situés dans l'aire de santé de Buhimba, à la limite avec celle de Mpeti, à titre d'exemple, est en rupture de médicaments depuis 6 mois. Selon le médecin chef de zone, cette structure accueille pourtant de nombreux patients, dont des déplacés en provenance des localités de Balinda et Banakindi, fuyant les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo. Le docteur Ngango Kubuya Placide attribue cette situation à l'insécurité persistante, à l'inaccessibilité de la zone et à l'absence de partenaires d'appui.
La zone de santé actuellement est enclavée. La partie Mueso est totalement inaccessible, mais aussi vers Masisi Nyabiondo. La route est totalement délabrée. C'est ainsi que l'approvisionnement en médicaments pose problème dans la zone de santé. Actuellement, la zone n'a aucun partenaire au niveau de Pinga.
Ces responsables sanitaires signalent une recrudescence des cas de paludisme et de diarrhée, touchant particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Ils plaident pour un approvisionnement urgent en médicaments dans l'ensemble des 19 aires de santé, y compris l'hôpital général de référence de Pinga, afin de sauver des vies. Toutefois, il assure que les démarches sont en cours pour soutenir les structures sanitaires en difficulté.
Province du Tanganyika, 6 personnes, dont 2 militaires de la force navale, ont été tuées par balle par des bandits armés dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la ville de Kalemie. Le coordonnateur de l'association Umo Djaninguvu déplore ce regain de la criminalité. Nathan Mogisho revient sur ce qui s'est passé cette nuit dans les propos recueillis par Paulin Munanga.
Vers 3h du matin, des balles ont crépité et ça fait panique sur toute l'étendue de la commune Lukuga parce qu'il s'agit du quartier Kaïté sur l'avenue Basilique où les bandits ont réussi à entrer dans les domiciles d'un compatriote répondant au nom de Mungwa Konkwa et ils ont tiré sur 4 personnes dont 3 sont décédées sur place, des femmes et un enfant. Et son épouse qui avait reçu des balles était vite amenée à Undugu sans hospitalier et à ses centres de santé, la dame a aussi succombé de ses blessures parce que c'était trop grave. Au total, nous avons compté 4 décès par ces coups de balle. Cependant, quand on est parti sur le lieu des drames pour constater et compatir avec la famille, nous avons appris aussi par malchance que 2 militaires du camp militaire marin qui étaient aussi sur la route ont été tués et les corps étaient là. Donc, au total, nous avons compté pour la nuit d'aujourd'hui, à cause de l'insécurité grandissante dans la ville de Kalemie, 6 personnes tuées.
La problématique de desserte en électricité et les projets hydroélectriques en RDC, au cœur du débat hier au Sénat, c'était à la suite d'une question orale avec débat du sénateur Janvier Mouicha, adressé au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Molendo Sakombi. L'auteur de la question interroge le ministre notamment sur l'existence d'un budget d'investissement pour le renouvellement des équipements de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle. Compte rendu ici de Grâce Samzati.
Dans sa démarche, le sénateur Janvier Mouicha rappelle les dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 160 du règlement intérieur du Sénat qui déterminent les moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement. L'élu du Nord Kivu interroge sur les causes des coupures intempestives du courant électrique à Kinshasa et dans d'autres régions du pays. En réponse, le ministre Molendo Sakombi affirme que la politique nationale des dessertes en électricité s'inscrit dans la vision du président de la République et dans les programmes d'action du gouvernement. Validée en 2022, cette politique a été actualisée en octobre 2025 pour intégrer des évolutions réglementaires importantes telles que l'adoption du compact énergétique et la révision de la loi sur l'électricité. Le ministre précise en outre que cette politique repose sur deux objectifs: renforcer l'offre d'électricité et assurer l'indépendance énergétique du pays tout en visant un accès universel à l'électricité d'ici 2040 avec un objectif intermédiaire de 62% d'accès d'ici 2030. Au cours du débat, plusieurs sénateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant la desserte en électricité dans leur province. Ainsi, un délai de 24 heures a été accordé au ministre pour répondre aux questions soulevées.
Des cas d'insécurité signalés ces jours-ci dans la province du Maniema, en l'espace d'une semaine, deux journalistes ont été pris pour cible à Kindu. Le dernier cas en date est celui du journaliste Kibondo Alimasi de la radio Kindu Fréquence modulée KFM en sigle, dont la résidence a été visitée par les inconnus dans la nuit de mardi à mercredi. Les trois hommes qui se sont introduits chez lui avaient pour mission de lui ôter la vie. Vivant désormais dans la peur, le journaliste appelle les autorités compétentes à assurer leur responsabilité. Le reportage ici est de Florence Kiza.
Ces jours, c'est avec peur au ventre que la population et les journalistes en particulier passent nuit. Après avoir vandalisé sa maison, Kibondo Amisi Loulou vit dans une psychose.
Il était 1h30, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, mais disant, nous sommes trois personnes devant votre porte à 7h, on nous a envoyé pour ôter la vie. Alors ils m'ont dit, il fallait donner $500 pour qu'ils rentrent, mais malheureusement je leur avais dit, je ne suis pas à la maison. Et soudain ils m'avaient dit, bon, vous verrez alors ce que nous allons faire à tes enfants qui sont ici. En ce moment ici, je suis en train de vivre en psychose, mais je suis en train de travailler jusqu'à 7h ici.
Les comités transitoire de l'UNPC Maniema s'est dit concerné par cette situation et appelle à l'intervention urgente des autorités. Grâce Mbambi, président.
Nous demandons à ce que nous soyons protégés par nos autorités. Les journalistes ne sont pas des gens qui doivent s'occuper eux-mêmes de leur sécurité. Nous faisons le travail qui est bénéfique pour la population et même pour les autorités que vous êtes. Et en retour, nous avons besoin que vous puissiez nous sécuriser. Ça ne coûte pas les aides de la tête.
Bien avant Loulou, le journaliste Kaponda Medar était aussi visité. Chez lui, tous les biens de valeur ont été emportés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Ituri, pour terminer, près de la moitié de 880 élèves inscrits à l'école primaire Saint-Luc, située dans le site des déplacés de Kingonse à Bunia, ont abandonné les cours depuis la semaine dernière. Tout cela parce que leurs parents ne sont pas à mesure de payer les 6000 francs congolais exigés chaque mois pour soutenir les enseignants. Jean-Claude Louki nous fait le récit.
Selon la direction de l'école, la majorité des parents déjà éprouvés par la précarité dans ce site de déplacés ne parviennent plus à réunir cette somme. Résultat, les salles se vident et de nombreux enfants se retrouvent de nouveau livrés à eux-mêmes. Benoît Loti est le directeur de cette école.
Les uns sont devenus enfants de la rue, c'est-à-dire chaque matin ils se lèvent pour aller à la ville pour faire des petits boulots. Les autres sont restés à la maison avec leurs parents. Ils n'ont pas les moyens de payer la collation.
Le coordinateur provincial de la protection civile, Robert Ndialonga, s'inquiète d'une possible aggravation de la situation. Il alerte sur le risque de fermeture totale de l'école, car même les 8 enseignants pris en charge par le gouvernement menacent de suspendre leurs activités. Ils accusent 3 mois d'arriérés de salaire.
Lorsque ces élèves abandonnent le cours, il y a risque qu'on puisse les retrouver dans les différentes artères de la ville de Bounia et pour être exposé à des cas de menaces ou d'incidents de protection.
Pour lui, une intervention rapide du gouvernement s'impose pour éviter d'hypothéquer l'avenir de ses enfants déjà fragilisés par le déplacement et la pauvreté. Bounia, Jean-Claude Louki, Dile, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le journaliste français Christophe Glaze a été condamné à 7 ans de prison hier par la cour d'appel de Tizi Ouzou en Algérie. Celle-ci confirme ainsi la condamnation en première instance du journaliste sportif indépendant. Ce collaborateur régulier du groupe de magazine Sopress a été arrêté en mai 2024 dans cette région du pays, puis condamné en première instance en juin 2025 pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'arrêt et à l'intérêt national. Le président français a envoyé son soutien aux journalistes condamnés.
L'invité.
Notre invité est le directeur exécutif de l'organisation Wokowu Wei, qui signifie la voie du salut. Cette organisation, en partenariat avec l'OMS, a organisé du lundi 1er au mercredi 3 décembre à Goma une formation à l'intention d'une cinquantaine d'acteurs humanitaires. L'objectif étant de renforcer la réponse face aux risques d'abus et d'exploitation sexuelle perpétrés par certains agents humanitaires. On écoute Alain Bagoula dans cet entretien avec Bernard Nyangi.
Monsieur Bagoula, Alain, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pour cette formation sur l'impact des abus et exploitation sexuelle dans ce contexte ici de crise humanitaire dans notre région, vous êtes parti de quel constat?
Nous sommes partis du constat où il y a eu des mouvements de déplacés vers la ville de Goma, les personnes qui venaient du territoire de Rutshuru, Masisi, mais aussi une partie du territoire du Sud-Kivu au niveau de Calais. Toutes ces personnes qui se sont déplacées vers la ville de Goma ont été obligées à retourner dans leur milieu d'origine. Il y a ceux qui sont restés dans la ville, dans les familles d'accueil, alors qu'ils continuent à bénéficier de certaines aides des acteurs humanitaires. Et ces aides-là, il y a des humanitaires qui font des dérapages et qui conditionnent les aides par rapport au sexe. Et ça déjà entrave la communauté est frustrée et les personnes y sont contraintes à le faire par rapport à leur vulnérabilité, ce qui pousse à certaines conséquences sur la santé mentale de ces populations-là. Et c'est cet constat qui nous a poussé à identifier certaines organisations humanitaires qui participent dans les réseaux PCA. PCA, c'est la prévention des exploitations et abus sexuels. Voilà, alors toutes ces organisations qui participent dans ces réseaux-là, nous sommes en train de les former et les orienter comment prendre en charge les bénéficiaires sans autant conditionner les aides.
Et ce constat-là a été fait dans le cadre d'une étude qui a déjà été menée ou bien c'est une étude qui est en cours?
Alors nous, en tant qu'organisation Okovwe qui est membre de l'interagence PCA, la coordination au niveau provincial, nous avions mené une étude des constats sur terrain. Nous avons trouvé que c'était nécessaire d'impliquer d'autres acteurs pour que ces études-là soient amplifiées dans tous ces territoires qui sont touchés par la crise humanitaire. Parce qu'à nous seuls, on ne peut pas être partout au même moment, bien qu'on a des représentations dans ces différents territoires et zones de santé où nous travaillons. Mais si nous impliquons d'abord les personnes de première ligne sur les plans réponses, nous pourrions capitaliser et faire une bonne étude qui pourra être chiffrée et peut-être publiée par l'interagence pour que ça soit un soubassement pour les agents humanitaires qui viendront intervenir dans les zones affectées par la crise humanitaire.
Là, vous ciblez quelles entités?
Alors, nous ciblons 3 territoires, mais avec beaucoup de zones de santé. Parce que là où il y a aide humanitaire, c'est là où nous allons faire les études et
proposer des réponses par rapport à ces fléaux qui gangrènent la communauté. Notamment, nous avons ciblé à Massissi la zone de santé de Kiroche, la zone de santé de Mueso, mais aussi voir si on peut aller jusqu'à la zone de santé de Massissi. À Rutshuru, bon, toute la zone de santé de Rutshuru, nous l'avions ciblé, la zone de santé de Nyiragongo. Bon, sans oublier aussi une partie de Goma au niveau de Karisimbi, où il y a des déplacés qui sont dans les familles d'accueil au niveau de Mugunga vers Lushagala. C'est là que nous avions d'ailleurs commencé l'étude, parce que nous avions une clinique mobile qui fonctionnait là-bas.
Et ce que vous attendez des participants, c'est quoi?
Nous attendons à des dimensions. D'abord, la compréhension de la thématique, la matière qui sera donnée, qu'elle soit vraiment comprise et intégrée dans leur politique. Nous avions remarqué aussi qu'il y a plusieurs organisations nationales et locales qui n'ont pas la politique sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux bénéficiaires. Tout ça, ce sont des valeurs que nous allons inculquer dans les organisations, mais aussi une autre dimension. Par nous seuls, on ne peut pas arroser toute la partie est, mais s'il y a des organisations qui intègrent des politiques, qui mettent vraiment en action tout ce qui sera comme outil partagé durant les 3 jours de formation, ça pourra diminuer tant soit peu les différents dérapages, mais aussi il y a des organisations qui n'ont pas une capacité d'encadrement des victimes. Tout ça, ça va nous aider à créer une synergie. Comme ça, tant soit peu, on pourra réduire les exploitations, abus, harcèlement faites aux bénéficiaires par les humanitaires.
Monsieur Bagoulala, merci.
Merci beaucoup, cher journaliste.
Fin de ce journal du soir de Radio Okapi. Merci à Poli Mouzali, à Lévin Mbwinga et Billy Landry Betou pour leur aide à la production de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Excellente soirée à tous.